Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Europe 1, 7h.
La situation elle est très tendue depuis plusieurs jours. On est passé de 2 à 3 entrées par jour au mois de décembre à aujourd'hui 8 à 10 entrées par jour, donc un flux qui a plus que triplé.
Face à l'afflux de patients, certains hôpitaux, comme au printemps dernier, sont obligés de transférer leurs malades. La situation est critique dans les Alpes-Maritimes. Nous serons à Grasse dès le début de ce journal.
Dès demain, la France exigera des tests négatifs pour entrer sur son sol depuis un pays européen. C'est déjà le cas pour les chauffeurs routiers qui arrivent du Royaume-Uni.
Le premier week-end de solde débute aujourd'hui avec le couvre-feu à 18h, les commerçants redoutent de lourdes pertes.
Et puis pour se remonter le moral, rien de tel qu'une belle chanson mélancolique, c'est pas une blague. Et on vous explique pourquoi.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Voici un signe supplémentaire de la progression de l'épidémie. Comme au printemps dernier, comme à l'automne, certains hôpitaux aujourd'hui n'ont d'autre choix que de transférer leurs patients.
Et de les envoyer vers d'autres établissements. Actuellement, c'est dans les Alpes-Maritimes que la situation semble la plus préoccupante. Les autorités sanitaires ont validé le transfert de 5 malades pour soulager les hôpitaux d'Antibes et de Grasse, où s'est rendu Frédéric Michel pour Europe 1.
À l'hôpital de Grasse, les équipes de réanimation respirent. Ce patient, évacué à Marseille, c'est une place de gagné. Avant ce transfert, les 12 lits de réanimation étaient occupés majoritairement par des malades du Covid. Walid Ben Brahim, le directeur du centre hospitalier de Grasse.
Déjà, on organise des transferts de patients entre l'hôpital de Grasse et les cliniques qui sont juste autour. Ça se fait tous les jours. Et puis, avec l'accompagnement de l'Agence régionale de santé, ce transfert en réanimation vers Marseille s'est fait très rapidement, ce qui nous permet d'avoir une bouffée d'oxygène. Mais la situation, elle est très tendue. Depuis plusieurs jours, on voit une intensification du nombre de patients Covid. On est passé de 2 à 3 entrées par jour au mois de décembre à aujourd'hui 8 à 10 entrées par jour, donc un flux qui a plus que triplé.
Au centre hospitalier de Grasse, sur les 23 lits réservés aux malades du Covid, seuls 2 sont encore libres et ça évolue d'heure en heure. Situation identique dans de nombreux hôpitaux des Alpes-Maritimes où les services sont saturés. Nice, Frédéric Michel, Europe 1.
Aujourd'hui, près de 26 000 personnes sont hospitalisées, dont 2900 en réanimation. Ce sont des chiffres qui augmentent peu à peu et la menace de nouveaux variants n'arrange rien.
Pour lutter justement contre ces nouvelles contaminations, la France demandera dès demain un test PCR à tous les voyageurs qui arrivent d'un pays européen. Par bateau ou par avion, c'est une mesure qui se pratique déjà par endroit.
C'est le cas pour entrer du Royaume-Uni, par exemple, où le variant anglais sévit. Les autorités réclament un test négatif avant d'embarquer sur un ferry ou d'emprunter le tunnel sous la Manche. Les routiers doivent eux-mêmes se tester. Les explications de Lionel Gougelot.
Avant chaque retour en France, Damien, le chauffeur routier, se gare sur un parking en amont du tunnel sous la Manche. Pour ce test antigénique obligatoire, c'est l'armée britannique qui fournit le kit nécessaire et le chauffeur se débrouille lui-même.
En fait, nous, on descend du tracteur et en fait, ils nous donnent tous les instruments pour qu'on fasse nous-mêmes le test. En fait. Donc, on met le bâtonnet dans la bouche, dans le nez. Après, on met dans un petit tube à essai avec un premier dent, on secoue. Et après, c'est à nous qu'on verse sur le petit truc là, pour dire si on est positif ou négatif. Quoi.
Un autotest à même le bitume au pied du camion. Beaucoup de chauffeurs routiers français comme Damien dénoncent les conditions d'hygiène et surtout la fiabilité des résultats dans un pays où le variant anglais fait des ravages.
20 minutes, on a le résultat, donc c'est trop rapide pour moi. C'est à la chaîne, donc pour moi, c'est pas très fiable, honnêtement, non. C'est pour ça que moi, je suis plus très chaud à venir en Angleterre, quoi, déjà. Je crains pour ma santé et puis celle de ma famille, déjà. C'est compréhensif, quoi.
L'ancien ministre et maire de Boulogne-sur-Mer, Frédéric Cuvillier, s'élève contre le traitement indigne infligé aux chauffeurs routiers. Il demande aux autorités britanniques de mettre en place un véritable accompagnement sanitaire pour la réalisation de ces tests. Lille, Lionel Gougelot, Europe 1.
Et vous l'avez entendu, hein, donc ce sera un test PCR à tous les voyageurs qui arrivent d'un pays européen par bateau ou par avion. Mais alors pourquoi pas en voiture et en train? C'est quand même là que le trafic est le plus dense. Encore une question que l'on posera à Marlène Schiappa, invitée tout à l'heure à 8h15.
La Belgique, quant à elle, a décidé d'interdire à ses habitants de quitter le territoire, sauf pour des déplacements essentiels. Et puis sachez que le directeur de l'OMS s'est exprimé hier soir pour dire deux choses. D'abord que les masques artisanaux en tissu sont toujours efficaces, contrairement à ce qu'affirment certains États, dont la France. Et puis qu'il est aujourd'hui trop tôt pour dévoiler l'origine du Covid. Personne à ce stade ne peut affirmer qu'il est né en Chine.
Oui, puisque les enquêteurs de l'OMS sont actuellement en Chine et précisément à Wuhan. 7h04, il n'y a pas de tolérance lorsqu'on met la santé publique en danger. Les gérants d'une boîte de nuit ont donc été condamnés à des peines de prison ferme.
Pour avoir organisé en plein confinement des soirées clandestines au César Palace en Isère, Jean-Luc Boujon.
À la barre, il y a 15 jours, le jeune homme avait plaidé l'innocence. Il avait expliqué qu'au départ, en avril dernier, il voulait simplement inviter quelques copains pour boire un verre et profiter de la piste de danse du César Palace, la boîte de sa sœur où il travaillait depuis 2 ans. Mais il avait ensuite été débordé par le succès et n'avait pas su dire non aux amis des amis des amis qui eux aussi voulaient faire la fête en ces temps de restrictions. Des explications qui n'ont visiblement pas convaincu le tribunal qui l'a condamné à 12 mois de prison ferme pour mise en danger de la vie d'autrui, explique la procureure de Vienne, Audrey Quay.
On avait entre 50 et 150 personnes par soirée. Pas de masque, pas de gel hydroalcoolique, des gens qui faisaient la fête dans des conditions qui étaient très loin de ce que sont les gestes barrières qui nous sont à tous recommandés. Et de fait, une mise en danger avec une potentielle circulation du virus qui était extrêmement importante, qu'on a établi jusqu'à 22 soirées organisées dans ces circonstances. Il y avait une volonté de faire passer un message parce que les conséquences peuvent être extrêmement graves.
La sœur du jeune homme, gérante du César Palace, écope, elle, de 8 mois avec sursis. Tous deux ont décidé de faire appel de cette condamnation qui inclut aussi une confiscation de tout le matériel sono de la discothèque évalué à 300 000 euros. Vienne, Jean-Luc Bougeon, Europe 1.
Aujourd'hui, la France n'est pas confinée, c'est le couvre-feu qui s'applique, pas de soirée, pas de sortie, donc ni d'achat passé 18 heures.
Oui, un coup dur pour les commerçants en ce premier week-end de solde, il faut à nouveau s'adapter. Reportage à Lille de Maximilien Carlier.
Dans son magasin d'accessoires pour hommes, Tony est en train d'étiqueter les boîtes à chaussures, puis les ranger dans des armoires coulissantes. Tout doit être prêt avant l'ouverture.
Il faut que ce soit une grosse journée, de toute façon on n'a pas le choix. Donc on a tout mis en place, on a augmenté notre volume de livraison pour avoir de la marchandise justement, et on attend avec impatience les clients.
Mais avec le couvre-feu, les distanciations, les masques, les files d'attente, y aura-t-il du monde dans les boutiques du centre-ville? Ajoutez à cela le variant anglais qui change un peu les comportements. Hélène, vendeuse dans le prêt-à-porter.
Les gens, avant, bon, ils touchaient quand même les vêtements. Maintenant, il y a des gens, ils veulent même plus les toucher. On les touche pour eux, on leur montre, on les... Donc il y a quand même vraiment une peur qui s'installe.
Ces commerçants dans l'habillement sont assez pessimistes, fatalistes. C'est moins le cas dans la décoration, par exemple. Christelle vend du linge de maison, des luminaires, de la vaisselle. Pour elle, les clients vont venir dépenser pendant ces soldes.
On sent qu'ils ont vraiment envie de se faire plaisir et l'intérêt, c'est vraiment leur maison, leur bien-être, la détente. Comme ils passent beaucoup de temps chez eux, ils ont besoin de se sentir bien.
Et certains gérants, responsables de magasins, hésitent encore à ouvrir demain, dimanche. Tout dépendra du chiffre et de l'affluence aujourd'hui. Lille, Maximilien Carlier, Europe 1.
En Russie, la police menace de réprimer toute manifestation de soutien à Alexeï Navalny après les appels lancés sur les réseaux sociaux.
Oui, appel à se rassembler aujourd'hui pour soutenir l'opposant qui est incarcéré depuis une semaine. Alexeï Navalny a d'ailleurs publié une vidéo depuis sa cellule. Sa communication est 100% maîtrisée, Jean-Sébastien Soldaini.
Alexeï Navalny bat le fer tant qu'il est chaud, il exploite au maximum l'intérêt suscité par ses mésaventures. Communication soignée pour révéler les dessous de son empoisonnement. Et désormais, avec cette vidéo, il dénonce à grande échelle le train de vie de Vladimir Poutine. Arseny est un de ses soutiens, il en est convaincu, l'opposant cible à la fois l'opinion publique russe et l'attention de la communauté internationale.
La question de rester en sécurité en Allemagne ou de rentrer ne s'est jamais posée pour lui. Il rentre pour montrer à quel point la loi est manipulée. Manipulée à tel point que le pouvoir ne s'en cache pas.
Rester en Allemagne, c'était prendre le risque de sortir des radars du Kremlin. Arnaud Dubien est directeur de l'Observatoire franco-russe. Il considère qu'Alexeï Navalny n'avait aucun intérêt à jouer l'exil permanent.
Il ne peut développer une activité politique que depuis la Russie. Aucun exilé, sauf Lénine, n'a réussi à changer le cours des choses en Russie. Le Kremlin estime avoir donné le choix à Navalny. Il pouvait rester en liberté en Occident. Maintenant, l'ignorer n'est plus possible.
Car le simple nom de l'opposant numéro un passe mal au Kremlin. Vladimir Poutine et ses collaborateurs préfèrent dire ce personnage ou ce monsieur dès qu'il est question d'Alexeï Navalny.
Jean-Sébastien Soldaini. Et puis toujours à l'étranger, la destitution de Donald Trump sera débattue par les sénateurs américains dans 15 jours, la semaine du 8 février. L'ancien président est jugé pour incitation à l'insurrection après l'attaque menée contre le Capitole.
Il est 7h09, vous restez avec nous dans un instant à la suite du journal. Les femmes s'impose dans le monde du sport. Le rugby féminin notamment est en plein boom. A tout de suite.
Europe 1, votre matinale info. Pierre de Villeneuve.
Et la suite du journal de Marguerite Lefebvre, c'est une semaine particulière qui s'achève, la semaine sport féminin toujours.
Oui, c'est une opération qui permet de parler des femmes dans le monde du sport et on a voulu évoquer ce matin sur Europe 1, le rugby, c'est l'un des sports qui se féminise le plus, près de 20% de joueuses supplémentaires l'an dernier en France et ça n'est pas un hasard, Simon Rubin.
La formation française fait aujourd'hui figure de modèle, notamment dans la manière d'entraîner joueurs et joueuses, car chez les jeunes talents repérés par la fédération, pas de barrière entre les genres, explique Didier Rottière, directeur technique national.
On a 184 filles qui sont dans les académies et qui s'entraînent exactement comme les garçons et avec les garçons. C'est nos joueurs et nos joueuses qui ont entre 15 et 18 ans. On va avoir une arrivée importante de filles qui sont préparées pour le haut niveau.
Et sur la question de la professionnalisation, les choses changent également. Beaucoup de joueuses travaillent encore en parallèle de leur carrière, mais c'est de moins en moins une nécessité, explique Pauline Bourdon, demi de mêlée et monitrice d'atelier.
Nous, on a signé des contrats à 75%, donc 25% chez notre employeur. Et il y a deux ans, on était à 50%, donc on voit vraiment qu'il y a une évolution. C'est sûr qu'on pourrait en vivre, mais on a aussi besoin de nous les filles de vraiment continuer à aller au travail, de voir du monde, professionnaliser le rugby féminin. Je suis pas sûr qu'à l'heure actuelle on veuille toutes.
Des joueuses qui veulent rester dans le monde du travail comme pour tracer une autre voie loin du modèle économique vacillant du rugby masculin.
Simon Rubin, deux résultats à vous donner ce matin. D'abord en foot, la victoire du PSG face à Montpellier hier soir 4-0. Aujourd'hui on suivra deux affiches, Lens-Nice et Monaco-Marseille. Et puis en handball, les Bleus ont une nouvelle fois tremblé, mais ils sont venus à bout de l'Islande et se rapprochent donc un peu plus des quarts de finale du Mondial.
Enfin, vous faites peut-être partie de ces Français qui écoutent de la musique pour se remonter le moral.
Oui, qui lancent leur playlist préférée en cas de coup de blues, et ils sont parfois récurrents en cette période de crise. Eh bien, sachez que pour retrouver un peu de joie, il faut écarter les chansons trop joyeuses. C'est assez contre-intuitif, certes, mais Angèle Châtelier vous explique tout.
Si vous vous sentez triste, laissez au placard vos disques et playlists de chansons festives. Quand on va mal, il vaut mieux écouter des chansons mélancoliques. Ce que m'a confié le professeur et psychologue Emmanuel Bigan, spécialiste de l'impact de la musique sur notre cerveau.
Si vous êtes dépressif et que vous êtes au fond du trou, écouter de la musique joyeuse, ça va vous enfoncer encore plus au fond du trou parce que vous n'allez pas vous identifier à cette musique-là. Donc il faut choisir, et c'est ce qu'on fait quand on fait des séances de musicothérapie, quelqu'un qui est très dépressif, on ne va pas lui mettre des musiques très joyeuses, on va plutôt lui mettre des musiques mélancoliques, mais qu'elles soient plus optimistes.
Au bagne donc Leonard Cohen ou Simon & Garfunkel. L'idéal, ce sont les chansons certes aussi calmes, mais sur des tonalités majeures, nous dit-il, et aux paroles positives, comme Good Vibrations des Beach Boys. Selon une étude Opinionway réalisée au début du mois, écouter de la musique permet à 75% des Français de se remémorer des temps plus insouciants. Et l'une des chansons qui le caractérise le plus, c'est bien Les Copains d'abord de Georges Brassens, en attendant de pouvoir les retrouver pour de vrai.
Naviguait en père peinard sur la grand-mare des canards.
Ouais, une chanson mélancolique pour aller mieux.
Ouais,
c'était le conseil d'Angèle
Châtelier. Les Beach Boys, c'est pas très mélancolique.
Non, pas très.
Hein,
voilà. Il faut tout.
C'est ça, chacun fait son petit choix. Merci Marguerite Lefebvre.